Bonjour à tous. C'est rudement sage. C'est étonnant. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de trois personnages important dans l'histoire biblique. Des idées qui me sont venues. Comme on n'est plus au milieu de l'estrade maintenant, hein, j'ai peur que ceux de là-bas ils se sentent un peu délaissés. Donc je tourne un peu le pupitre pour essayer d'équilibrer. Voilà, pour que tout le monde en ait un petit peu. Voilà, trois personnages importants de l'histoire biblique et quelques comparaisons qui surtout m'amèneront à des réflexions pour nous aujourd'hui. C'est des réflexions que j'ai eues en lisant un livre qui n'était pas censé être un livre de théologie, mais qui m'a amené à réfléchir à certaines choses. Trois personnages. Jacob. Je ne vous apprends pas qui est Jacob, mais Jacob est un personnage extrêmement important parce que c'est lui qui est véritablement, on va dire, à l'origine du peuple d'Israël. L'histoire, bien sûr, que raconte la Genèse commence avant. Il y a Abraham qui venait d'Irak ou quelque chose comme ça, qui passe par le croissant fertile. Vous savez, on a appris ça à l'école. Hein, donc l'Euphrate, le Tigre, il remonte vers le nord-ouest, jusque vers la Syrie, puis après il redescend à Palestine, voire jusqu'en Égypte. Hein, il est allé en répondant à cet appel, sors de ton pays et va ailleurs construire quelque chose de nouveau. Et puis Isaac. Son fils, il a eu bien du mal à arriver, celui-là. Ça a été compliqué. Mais c'est lui qui fixe un petit peu la famille dans le sud de la Palestine, vers Hébron, Beersheba, enfin dans ces coins-là, à peu près au niveau de la mer Morte. Mais c'est avec Jacob et ses 12 fils que commence véritablement la notion de peuple de Dieu, y compris le nom qui lui sera donné, Israël, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Deuxième personnage, c'est Moïse. Alors lui aussi, il a mal commencé, il a même failli pas commencer du tout, si je puis me permettre. Fils d'Hébreu, sauvé par un peu quelque chose de miraculeux, élevé en Égypte. Quand il arrive à la fin de l'adolescence, turbulent, il cherche ses racines peut-être. Puis finalement, il est obligé de s'enfuir pour finalement terminer comme berger dans une tribu nomade du Sinaï. Mais lui aussi, il va être appelé par Dieu à remplir un rôle historique. Et c'est lui qui, deuxième grand virage, va véritablement fixer le régime théocratique du peuple de Dieu, c'est-à-dire lui donner la loi qui est à la fois le code civil et le code religieux et la manière dont Dieu souhaite être adoré. Puis le troisième personnage, c'est le roi Saül. Alors lui, il est un peu plus contesté quand même. On l'aime moins, Saül, hein, mais bon. Mais néanmoins, c'est celui par lequel le peuple hébreu fait un nouveau virage, puisqu'il se normalise, si j'ose dire, et qu'il accède à un régime de leur royauté en remplaçant ce régime théocratique porté par des juges qui étaient quand même de plus en plus contestés ou de moins en moins, légitimes. Et c'est la royauté qui s'installe. Trois personnages singuliers, trois repères dans l'histoire de l'Ancien Testament. Le peuple, la loi, la royauté. Alors Jacob, je vous invite vraiment à relire toute l'histoire, ça se lit comme un roman, hein, donc c'est la Bible, mais ça se lit quand même comme un roman. Donc, y a même des versions avec des images, hein, si vous voulez, pour lesquels c'est un peu dur de lire beaucoup de mots. À partir de Genèse chapitre 25, il est né jumeau, et manque de chance, c'est lui, il est sorti deuxième du ventre. Ah. Donc déjà, il part avec un handicap, si j'ose dire. Mais il est malin, il est rusé. Des fois, on dit un peu trop. Et à l'âge où les choses sérieuses se décident, c'est-à-dire que son père devient très vieux, il est quasiment aveugle, il va bientôt distribuer son héritage, ses pouvoirs, voilà, et la transmission va se faire. Jacob réussit à berner son frère, qui, lui, est plus occupé à chasser qu'à défendre sa position d'aîné. L'histoire nous dit même, hein, c'est dans Genèse 25, verset 33, qu'il a vendu son droit d'aînesse pour une soupe. paraît un peu excessif comme image, mais voilà, il faut mettre beaucoup de contenu dans cette histoire. Si on la prend juste comme ça, roi commune une soupe contre mon roi d'Aînesse, bon, ça, c'est sans doute un peu plus dense que ça comme histoire. Mais voilà, le fait est que Jacob a réussi à berner son frère, mais enfin ça finit mal parce qu'il doit fuir. Son frère finalement veut le tuer à cause de ça. Il doit fuir, donc il remonte vers le nord, vers la Syrie, quelque chose comme ça, enfin ou la Jordanie, enfin on ne sait pas exactement. Mais là, il se débrouille plutôt pas mal. Et quelques années plus tard, alors quelques années, c'est au moins 20 ans, il a envie de rentrer chez lui. Et le voilà à la tête d'une grande famille, avec beaucoup de gens à son service, des troupeaux. Il est devenu riche, donc finalement, plus rien ne va lui résister. Oui, mais voilà, son frère l'attend. Et comme on sait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et donc Jacob, il n'est pas très rassuré à l'idée de se retrouver nez à nez avec ce frère qui a voulu le tuer et pour lequel il a dû s'exiler pendant une longue période. Mais l'histoire nous dit que là, Jacob, il sait y faire, il envoie des tas de cadeaux à son frère, il le comble de tout un tas de trucs. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que la colère d'Ésaü s'est un peu estompée, avec le temps, devient un peu plus sage hein, quand même. C'est encore que, c'est pas sûr, mais bon. Mettons que c'était ça en partie pour ce qui concerne Jacob et Ésaü. Finalement, tout s'arrange, les deux frères se réconcilient, tout va bien. Donc on se dit, c'est bon, là, la porte est libre. Eh bien, c'est pas tout à fait tout. C'est pas tout à fait tout, parce que, si on se rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire, quand il est parti, Jacob a fait une promesse. Cette promesse, il ne l'a pas fait à sa famille, ni aux gens avec qui il partait, etc. Il a fait cette promesse, il s'est engagé devant Dieu. Vous savez, il est sur la route, il dort et il fait un songe un peu étonnant avec une échelle qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et il se réveille en sursaut, je suis en présence de Dieu. Et dans Genèse, au chapitre 28, verset 20, Jacob fit un vœu et dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'érige en stèle sera là la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob a fait une promesse en partant. Et puis après, il est parti, il a travaillé, il a épousé Léa, puis Rachel, il a eu des enfants, il a fait en sorte que son troupeau... Voilà, il a sans doute eu l'esprit occupé à bien d'autres choses que cette promesse un peu insensée qu'il a faite à ce moment-là. Sauf que quand il revient et qu'il va passer le torrent du Jabbok, je crois, quelque chose comme ça, hein, c'est à peu près ça le nom, oui, du Jabbok ou Jabbok, enfin voilà, et bien ça lui revient. Et non seulement il y a son frère, et c'est un peu un obstacle, mais là il y a ça. Et le récit biblique nous montre ce retour sous la forme d'un combat. Et on va lire de ce qui arrive à Jacob, qui est un peu étonnant, et il y a plein d'explications qui ont été données par tout un tas de théologiens, je ne vais pas en rajouter. On va juste lire le texte et avancer avec Jacob dans la Genèse, au chapitre 32, verset 25. Jacob resta seul, il a fait passer tout le monde devant lui, tous ses troupeaux, sa famille, toutes ses possessions. Bien avant, il y avait tous les cadeaux qu'il faisait à Ésaü, et Jacob reste seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Là, les théologiens se penchent sur le sujet pour savoir cet homme c'est qui, qu'est-ce qu'il faisait là, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est un ange de Dieu. Voilà, il y a mille et une théories qui ont été émises, j'en rajouterai pas. Mais ils se battent, voyant l'homme voyant qu'il ne pouvait le vaincre, le frappa à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il se battait avec lui. Puis l'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, comment t'appelles-tu? Il répondit, Jacob. L'homme dit, Jacob, c'est plus comme ça qu'on va t'appeler, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interroge à son tour, j'en prie, dis-moi quel est ton nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Lutte étonnante, hein, je l'ai dit. Le sujet n'est pas d'essayer de rajouter une énième théorie pour savoir qui était, pour quelle raison il y a ce combat. Mais je crois vraiment qu'au moment où Jacob va rentrer dans le pays et où la promesse qu'il a fait 20 ans après va commencer à s'accomplir, là, il y a plein de choses qui lui reviennent, et c'est un combat intérieur, on peut le prendre au sens propre, il y a une lutte, mais au sens figuré. Toujours est-il que Jacob, qui est le père du peuple d'Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il entre dans le pays qui va commencer cette œuvre, il est boiteux, il est handicapé, il est boiteux. C'est un homme boiteux qui va être le père du peuple. Moïse, j'avais envie que j'en raconte plein sur Jacob, mais vous lirez vous-même du chapitre 25 au chapitre, je ne sais pas quoi, de la Genèse, et vous verrez par vous-même beaucoup de choses sur ce récit. Moïse, je ne reviens pas sur ses débuts, on va le rejoindre quand il est dans le désert, il garde les troupeaux de Jéthro, dont il a épousé la fille, Séphora, une Madianite, donc une tribu qui n'est pas la tribu d'Israël. On dirait que pour Moïse, l'histoire est terminée. Il est là-bas, il garde ses chèvres ou ses moutons, je ne sais pas. Oui, mais Dieu n'a pas fini avec lui. Et le buisson ardent, vous connaissez ce récit, bien sûr. Disons quand même quelques versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il se rendit à Horeb et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Un buisson qui était tout en feu, mais qui ne se consumait pas. Moïse dit, je vais aller voir ce que c'est. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et il l'appela. Moïse, Moïse, me voici. N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. L'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Pour un berger, tout un programme quand même. Il est tout petit berger dans un petit coin perdu du désert. Et l'ordre lui est donné d'aller affronter Pharaon, qui était quand même sans doute un des plus puissants de son époque. Mais que pensez-vous qu'a senti Moïse quand Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » Est-ce que ce n'est pas un peu comme Jacob, où il s'est rappelé d'où il venait? Il s'est rappelé à un moment où il avait voulu devenir le chef des Hébreux, où il avait pris les armes, il avait tué quelqu'un, il avait été celui qui voulait défendre la mémoire de son Dieu, puis il avait un peu oublié ça, parce que évidemment, lui aussi il a dû fuir, lui aussi il a dû se cacher. Mais Dieu lui dit, souviens-toi d'où tu viens, pourquoi m'as-tu délaissé? Je compte sur toi, j'ai besoin de toi pour accomplir mon plan. Et alors là, Moïse, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas y aller, vraiment. Verset 11. « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» C'est sûr qu'il va falloir qu'il troque un peu ses habits de berger contre quelque chose d'un tout petit peu plus convenable. Un peu plus loin, Moïse dit à Dieu, « Bon, alors, admettons que j'y ai, parce que Dieu lui répond, « Je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. » Oui, d'accord, j'irai vers les Israélites, verset 13, « Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé, mais ils me diraient, « Mais de quel Dieu tu nous parles ?» Et Dieu lui répond, « Je suis celui qui suis. » Comprennent qui peut. Et puis, si on va un petit peu plus loin, c'est au chapitre 4, continue l'argumentation. Mais ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, mais c'est pas vrai. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Tiens, jette-le par terre. Et là, Dieu lui donne des signes, et le bâton devient un serpent, puis il le reprend. Enfin, Dieu veut le convaincre, veut faire tomber ces murs d'inquiétude. Et puis finalement, le dernier argument au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Qui a donné une bouche à l'être humain, lui dit Dieu? Qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant va !» Moïse dit, « Seigneur, envoie qui tu voudras. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « Puisque tu ne veux pas y aller, tu iras avec ton frère Aaron, parce que lui, il n'a pas de problème, il sait parler. » Tous les arguments de Moïse avaient du sens, quand on réfléchit bien. Moi, je suis inconnu. Non seulement, pour la plupart, je suis inconnu, puis il y a peut-être bien quelques policiers qui ont mon dossier encore de quand j'ai dû fuir parce que j'étais un meurtrier. Je parle au nom de qui? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est quand même pas forcément très clair. Et puis le dernier argument, c'est celui sur lequel je m'arrête. Quand Moïse dit, je n'ai pas la parole facile, les commentateurs se retrouvent à peu près pour dire que sans doute Moïse était bègue. Il bégayait. Il a la parole lourde, la langue lourde, hein, selon les traductions, les mots ne sortent pas de la bouche comme je veux, ou je sais plus, enfin, il y a différentes traductions. Si vous lisez la parole vivante, la Bible en français courant, c'est à peu près quelque chose comme ça qui est dit. Alors, le bégaiement est souvent lié à des traumatismes psychologiques, on le sait. Moïse, il en a eu son lot quand même, hein. Arraché à sa mère, enfermé dans un couffin, sur le Nil, recueilli et adopté par une étrangère, élevé comme un prince. À l'adolescence, comme je l'ai dit, il recherche ses origines. Puis, et tout d'un coup, il sent une âme de révolutionnaire. Il veut, et puis, il va passer à l'acte, etc. Voilà. Il avait reçu une instruction très élevée, très poussée, avec toute la science de l'Égypte. Et voilà qu'il termine en gardant des chèvres. Il y a de quoi quand même vous secouer un petit peu. Et Moïse en est resté bègue. Et c'est sur un homme handicapé, là aussi, que Dieu va compter pour franchir cette deuxième étape, enfin, cette étape, c'est peut-être pas la deuxième, mais la deuxième que je vous relate ce matin. C'est sur cet homme que Dieu va compter pour écrire cette nouvelle page de l'histoire du peuple d'Israël. Un homme qui, lui aussi, est diminué, qui a besoin de quelqu'un d'autre pour faire le travail, il ne peut pas y aller tout seul. Et puis le troisième personnage, Saül. Alors, on avance dans l'histoire d'Israël à grandes enjambées, et on est bien plus loin dans le premier livre de Samuel. Au chapitre 8, Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils était, etc., etc. Mais les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Le népotisme, ça n'a jamais produit de belles choses, hein, quand même, quand on commence à penser qu'on a un droit naturel à ce que ses enfants poursuivent et bénéficient de tout ce qu'on a. Encore aujourd'hui, dans l'histoire, on voit bien que c'est pas forcément bien. Samuel aurait dû pourtant se rappeler, parce que lui-même, quand il a été appelé prophète, c'était pour remplacer les fils d'Élie. Si vous lisez dans 1 Samuel 2, vous savez, juste avant l'appel de Samuel, « Samuel, Samuel, parle Seigneur, car ton serviteur écoute », vous connaissez ce récit dans 1 Samuel 3, et un chapitre avant, il nous a dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Eux, ils avaient tendance à se servir dans la caisse, si j'ose dire, et les fils de Samuel, eux, ils touchaient des pots de vin. Bon, dans un cas comme dans l'autre, les gens étaient dévoyés, et à cause de cela, le peuple, les anciens d'Israël se rassemblèrent, vinrent auprès de Samuel et dirent, voilà, il faut changer, établis sur nous pour nous juger un roi, commandons toutes les nations. Alors on a beaucoup critiqué, enfin on reprend les paroles de Samuel, et ce que Dieu lui répond, du moins ce que Samuel entend, c'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi, ils veulent, etc. Mais en même temps, la situation à laquelle Samuel, après d'autres, avait amené le peuple, faisait qu'il disait, il est quand même temps de changer de régime politique, parce que avec les juges les uns derrière les autres, ça ne marche plus. Et donc même si ça ne lui plaît pas, Samuel va introniser cet homme. Chapitre 9 de 1 Samuel, il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorath, fils d'Afia, fils d'un Benjaminite, un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite, beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. À quelqu'un qui a toutes les qualités pour faire un roi. Il vient d'une famille renommée, il est riche. Il est grand, fort, il a toutes les qualités. Le roi, c'était quelqu'un qui devait conduire les armées à la guerre, qui devait protéger, qui devait représenter. Bon, c'est encore un peu la même chose aujourd'hui. Saül a tout ce qu'il faut pour réussir, mais là aussi, je vous invite à lire tout le récit. Rapidement, il dérape. Il pense avoir le droit de remplacer le juge, le sacrificateur, et de faire le travail lui-même. Il a besoin de personne. Il se croit au-dessus de tout. Il mène des guerres qu'il ne devrait pas mener. Il pense vraiment avoir tous les pouvoirs, et quand ça ne suffit pas, il va consulter une voyante. Quand les choses commencent à aller pas bien, il va consulter une voyante pour que Samuel, qui est mort depuis un certain temps, revienne et essaye de lui donner un conseil. Voilà, petit à petit, Saül dérape de plus en plus, jusqu'au jour où véritablement il va craquer grave, si j'ose dire. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Vous moquez pas de moi. À un moment, le voilà qui est pris par des troubles mentaux. Chapitre 16, verset 14, « L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit le remplissait d'épouvante. » Alors ses serviteurs lui disent, « Trouve-toi quelqu'un qui fait de la musique, ça va t'apaiser, et on va trouver quelqu'un, et ce quelqu'un, ça sera David, merci. Alors, vous suivez quand même un peu. Ça sera David. Mais ce qu'il y a surtout, c'est Saül, il est en train de rentrer dans une phase où sa maladie mentale est en train d'arriver, petit à petit. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 18, David, bon, il a pris du galon, hein, il est dans l'armée, et à un moment, il y a une bataille, et quand il revient, on acclame David bien plus que Saül. Saül en prend ombrage, au chapitre 18, une grande colère s'empare de Saül. Quoi, on dit, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000, manquerait plus qu'il vienne roi à ma place. Et vous savez ce qui se passe, il avait sa lance, il veut essayer de tuer David, et David s'échappe. Et non seulement la maladie, la jalousie, la maladie, son trouble psychique augmente, mais il est prêt à passer à l'acte. Et finalement, il va faire comme beaucoup de gens qui ont une maladie mentale, c'est qu'il passera à l'acte, mais contre lui-même. Puisque la fin de Saül, dans une bataille contre les Philistins, où Israël est en train de perdre, Saül demande à ceux qui l'aidaient à porter ses armes, « Tue-moi, pour que je ne sois pas fait prisonnier. » Le serviteur ne veut pas, c'est au chapitre 31. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il avait grand peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Il s'est suicidé à la fin. Voilà ce qui est arrivé à Saül. Une dépression qui progressivement s'est installée, qui devient une maladie psychique, qui fait que de dérapage en dérapage, il est arrivé à quelque chose de dramatique. Quelle trajectoire! Quelle fin pour un homme qui devait porter le renouveau du peuple d'Israël et le stabiliser politiquement en lui donnant des institutions, une royauté, etc. Alors Saül, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'aime un peu moins que Jacob et Moïse. Hein. Il est un peu moins haut placé dans notre échelle de... Mais n'empêche qu'il a joué un rôle important dans cette aventure que Dieu a avec les hommes au travers d'un peuple, un petit peuple, quelque part en Palestine. Alors vous allez penser que c'est mon métier qui m'obsède, hein, parce que je travaille dans le handicap, le domaine du handicap. Donc c'est des sujets qui m'interpellent. D'ailleurs, c'était un livre sur ce sujet-là que je lisais, dont je parlais tout à l'heure. Mais ces trois personnages qui incarnent trois virages importants dans l'histoire d'Israël, hein, le peuple, la loi, la royauté, ces trois personnages ont en commun d'être des gens fragilisés, porteurs d'une fragilité. Jacob a un handicap physique, il est boiteux. Moïse, on peut dire qu'il est bègue suite à, allez, on va dire un handicap psychologique, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faudrait. Et puis Saül, lui, il a une maladie mentale, enfin en tout cas qui va se révéler progressivement et qui va l'emporter finalement. Et ça a simplement entraîné quelques réflexions que je vais vous livrer. La première, c'est de se dire, mais pourquoi le récit biblique met souvent en avant, si souvent en avant, des personnes fragiles, fragilisées? J'en ai cité trois, mais il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Il y a beaucoup de circonstances. On se dit, mais c'est pas bien, ça, c'est bizarre. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire que Dieu mène avec les hommes depuis toujours. Dans la plupart des légendes historiques, bon, l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, ou je sais pas quoi, ou les trucs d'aujourd'hui, là, Games of Thrones, ou je sais pas ce qu'il faudrait dire. Enfin, bon, bref, tous ces grands récits, le héros, il lui arrive des tas de machins, il prend des coups, il est cabossé de tous les côtés, mais il reste toujours quand même le héros. Celui qui est le plus fort. Mais la Bible, ça n'est pas cela. La Bible que nous lisons comme la parole de Dieu, elle nous parle de la vraie vie. Elle nous parle de la réalité de notre chemin sur la terre. Alors certains ont dit, mais c'est quoi cette religion qui ne s'applique sur des faibles? Le plus emblématique, hein, c'est le philosophe Nietzsche qui a amené ça vraiment, hein, la religion, l'opium du peuple. Et pour lui, c'était vivement un monde où il y aura des surhommes qui vont dominer, Zarathoustra, etc. Si vous avez fait un peu d'études où on a parlé de ces choses-là. Et pourtant, la Bible, de manière récurrente, y compris dans les grands moments de son histoire, s'appuie non pas sur des super-héros qui vont être au-dessus de tout, mais elle va montrer que Dieu travaille avec des gens comme vous et moi. Pas tout à fait comme vous et moi, mais quand même. Des gens qui ont leur fragilité, comme nous avons nos fragilités. Voilà, c'est un premier élément de réflexion. Jésus lui-même, par des paroles simples, il parlait en parabole, par une vie simple, a montré et a dit à plusieurs reprises que le chemin avec Dieu, le chemin vers Dieu ne reposait pas sur des qualités extraordinaires, ni sur des compétences extraordinaires, ni sur une force hors du commun. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il s'élève parmi les disciples une contestation pour savoir lequel devait être le plus grand. Est-ce que c'était Pierre qui passe un peu pour le chef des apôtres, ou est-ce que c'est... Ben voilà, c'était discuté. Et Jésus leur dit, mais les rois des nations les dominent, ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs, il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Et pour l'illustrer, vous savez que Jésus n'a pas hésité à demander que nous sachions garder un cœur d'enfant. Il y a un épisode où Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. » Et puis, quelques chapitres plus loin, c'est dans Matthieu au chapitre 19, hein, les gens lui amènent des petits-enfants, tous ces récits sont bien connus. Mais on veut dire, maintenant, arrêtez d'embêter Jésus, il a autre chose à faire. Et Jésus dit, non, laissez-les venir. Voilà à quoi vous devez ressembler si vous voulez véritablement entrer dans le royaume. L'apôtre Paul, lui aussi, ira encore plus loin. Enfin, plus loin. Il dira encore d'autres choses quand il enseignera la communauté chrétienne qui est en train de s'établir et où, sans doute, il y avait de l'opposition. Donc, quand il y a de l'opposition, on cherche un chef, quelqu'un qui tient debout, qui tient la route. Et, en quelque sorte, l'apôtre Paul sera presque un marqueur de cette nouvelle communauté, le fait que ce n'est pas sur la force que va s'appuyer votre réussite, mais au contraire, c'est Dieu qui transforme la faiblesse pour sa gloire. Dans la première épître que Paul écrit aux Corinthiens, au tout début de cette épître, « Considérez, frères, comme vous avez été appelés, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et puis, dans l'épître aux Philippiens, donc bien plus tard dans sa vie, on a toujours cette idée dans Philippiens 2, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Voilà quels sont les mots d'ordre que Paul donne. Mais ne nous y trompons pas, être faible, ça ne veut pas dire remettre en cause des compétences qui sont nécessaires, des qualités, etc. Et l'histoire des trois personnages montre que Jacob, il avait quand même des capacités, il avait réussi à s'arracher d'une situation dramatique pour devenir quelqu'un. Moïse, même s'il était bègue, il a réussi à capter toute la pensée de Dieu pour donner la loi et pour entraîner le peuple, pour guider le peuple. Pourtant, combien de fois il s'est fait bâcher et même ça a failli être fatal quelquefois. Hein, et tout en étant l'homme le plus humble que la terre ait porté, nous dit la Bible. Deuxième remarque, deuxième réflexion, c'est sur le regard que nous portons du coup sur les gens qui sont autour de nous. Bien souvent, par nos paroles, par nos attitudes, par nos jugements, par ce que nous faisons ou disons, nous plaçons les gens entre les bons et les mauvais, ceux qui vont bien, ceux dont on peut s'approcher, etc. Mais le malade, le pauvre, l'étranger, le handicapé, mais aussi le fort, le beau, le puissant, tous sont fragiles, car pécheurs, et naturellement éloignés de la présence de Dieu. Vous connaissez dans Romains 3, verset 23, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et donc, nous non plus, nous n'avons pas à faire de distinction entre les gens en fonction de ce que nous considérons comme bien, pas bien. Devant le Seigneur, tout le monde est dans la même situation. Mais le corollaire de ça, c'est également tous sont aimés de Dieu. La suite du verset, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Tous ont péché, nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes tous aimés de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Hein, c'est ce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 2,4. Donc, deuxième axe de réflexion, c'est quelle est notre attitude par rapport aux gens qui sont fragiles, par rapport aux migrants, par rapport... Hein, vous voyez tout ça, dans une semaine, on va voter pour les élections européennes, je ne vais pas faire campagne, hein, c'est pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le sujet. Mais je pense qu'il faut y penser, non pas pour dire que la construction européenne telle qu'elle est magnifique, ce n'est pas le sujet, il y a des axes, il y a des gens dont c'est le métier de travailler ça. Mais on entend quand même dans certains discours une insistance sur l'inquiétude, le rejet de l'autre, de l'étranger, du migrant. Je pense que dans ce genre de gestes citoyens, nous avons aussi à dire quelque chose à notre monde, y compris dans nos choix politiques. Attention à ne pas suivre, hurler avec les loups, si j'ose dire, et stigmatiser telle ou telle catégorie, les pauvres, les migrants, les riches, enfin, il y en a pour tout le monde, hein, parce que beaucoup de discours sont souvent très caricaturaux, que nous puissions aussi, par nos paroles et par nos gestes, montrer que nous refusons toute discrimination. N'oublions pas, Jacob était boiteux, Moïse était bègue, Saül avait un petit peu une araignée qui lui grimpait au plafond de temps en temps, hein, c'était, ça allait pas bien, et ça s'est mal terminé. Et c'est quand même sur ces gens-là que Dieu a compté pour faire prendre à son histoire avec les hommes des virages qui ont amené jusqu'à nous. Et donc, le troisième et dernier axe de réflexion, c'est une interrogation constante sur la manière dont Dieu déroule son plan. Ça passe par des chemins étonnants, et c'est souvent bien souvent après qu'on comprend pourquoi je suis passé par telle ou telle étape. J'ai bien aimé ce qu'Arnaud nous a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, en se reculant, il retrouve des tas de traces, si j'ose dire, ou de jalons, qui montrent que Dieu était avec lui, au travers de choses qui, peut-être, sur le moment, lui apparaissaient pas comme telles. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ton partage tout à l'heure. L'histoire de Jacob, de Moïse et Saül a certainement été écrite bien après les événements. C'est pas un reportage journalistique qui est fait sur l'instant, ça n'existait pas. Et elles mettent en avant ces vérités qui sont fortes pour nous et qui doivent nous éclairer. Et ça veut dire que même quand nous traversons, ou quand des gens autour de nous traversent des aventures, des circonstances qui nous paraissent difficiles, même quand il nous semble que quelqu'un ne suit pas le chemin que j'aimerais qu'il suive, ne désespérons pas, ne jugeons pas de manière trop hâtive. Si Isaac avait jugé définitivement son fils quand il a triché et qu'il a piqué le droit d'aînesse à son frère et qu'il l'avait banni à tout jamais de la famille, que serait-il advenu ? On peut faire de la fiction, hein, on peut réinventer une histoire autrement. Et pour vous dire, si Dieu avait rejeté Moïse, ou si le couffin avait coulé dans le Nil, ou si, enfin voilà, si Dieu avait rejeté Moïse parce qu'il avait, hein, quand il disait « mais je veux pas y aller, je peux pas y aller, je sais pas parler », etc., on voit qu'à la fin c'était à deux doigts, hein, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Mais il l'a pas pulvérisé sur place, il lui a trouvé quelqu'un pour l'aider, hein. Mais si Dieu avait fait comme dans certains autres récits de la Bible, où on voit que les gens qui lui résistent, il les pulvérise comme ça, qu'est-ce qui serait passé ? En fait, non, Dieu avait un plan. Et au contraire, il a attendu 20 ans que Jacob, par un chemin compliqué, où rien n'était prévisible, a pu arriver à ce moment où il a lutté, certes, jusqu'au bout, mais il a rencontré Dieu, il a appelé ce lieu Péniel parce que j'ai vu Dieu face à face. Moïse, il était plein de son histoire compliquée. Et vous savez, quand on travaille avec certains jeunes qui viennent de milieux très très défavorisés ou qui sont passés par les services d'aide sociale à l'enfance ou des choses comme ça, on voit des gens qui seront envahis par une histoire qui est d'une complexité absolument abracadabrantesque, comme disait l'autre. Mais Dieu avait une vision au travers de ça. Il a su l'amener au point où il a finalement accepté d'endosser cet habit de prophète. Et la fin du Deutéronome, donc la fin de tout du Pentateuque, qui principalement nous raconte les débuts de l'histoire de Dieu avec son peuple, nous dit Deutéronome 34, « Il ne s'est pas levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel l'envoya faire. » Et là, on fait référence aux plaies d'Égypte. Et puis pour Saül, c'est un peu plus compliqué, parce que Dieu a dû sortir le plan B. Le plan B, ça a été David. Voilà. Et là aussi, ce sont des choses que on peut analyser après, mais quand on est dans l'action, on ne voit pas forcément. Mais ayons confiance, Dieu tient les choses entre ses mains. Et c'est David qui a rempli le rôle, imparfaitement aussi, hein, mais bon, je n'attaque pas l'histoire de David, parce que sinon le temps va passer, et puis je vais me faire rappeler à l'ordre. Voilà. Juste pour conclure, ces trois personnages que j'ai mis ensemble, pour des raisons que vous avez comprises. D'abord, je ne peux que vous encourager à lire encore et encore la parole de Dieu, à vous en nourrir, à la connaître, parce qu'en la connaissant, on fait des liens et on voit la grandeur du plan de Dieu depuis Genèse 1, verset 1, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Il y a des liens, alors des fois on en fait trop des liens, des fois on en fait des un peu imaginaires, des fois, mais tout cela a une cohérence, et cette cohérence, c'est que c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui guide toutes choses. Et surtout, s'il guide toutes choses, c'est pas simplement cosmique. Il guide toutes choses aussi individuellement pour chacun d'entre nous et chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Et la Bible est un livre qui nous parle non seulement d'hier, d'une histoire passée, mais surtout qui nous parle d'aujourd'hui, de moi, de nous, de ce que Dieu attend de nous, de ce que Jésus nous montre dans sa vie. Et il nous apprend aussi à ne pas nous attacher à trop de critères trop humains, les forts, les faibles, les grands, les petits, les beaux, les... Ah d'accord, toutes ces choses-là, selon lesquelles bien souvent et naturellement nous avons tendance à juger ou à décider, mais ce n'est pas tout à fait ça que la Bible nous montre. Et je termine avec un verset dans la fin de l'Épître aux Romains, où Paul parle de ceux qui ont du mal avec certaines de ses paroles qui sont un peu faibles par rapport à ça et d'autres qui se sentent plus forts. Nous qui sommes forts, dit Paul, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, selon qu'il est écrit « Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi ». Or tout ce qui a été écrit d'avance, tout ça là, tout ce livre, l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière.